Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hiring for your small business ? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Allez, aujourd'hui, nouveau podcast et je suis avec Olivier, alias Sentier de Bretagne, qui a parcouru le GR34 en 41 jours, 2140 km, plus de 28 000 de mètres de dénivelé positif. J'ai vu que tu l'avais noté sur ton Instagram comme si c'était tout ça, tous ces chiffres étaient importants, impressionnants, du moins, ils sont impressionnants quand même. On va en parler hein, de ce beau GR34, ça fait quand même pas mal d'épisodes maintenant que je vais avoir sur ce GR, parce que j'ai reçu Nicolas Van de Lensken que tu as croisé pendant l'épisode. Pendant cette aventure. Donc l'épisode 240 avec Nicolas. Comment vas-tu, Olivier ?
Ben, ça va bien. Voilà, ça fait bientôt 4 semaines que j'ai terminé. On n'a pas pu se joindre plus tôt, mais c'est très bien aussi. Ça me permet d'avoir récupéré un peu plus de ce défi, très difficile, bien entendu. Ben, ça va bien. Voilà, il fait beau par ici.
Ouais, c'est ce que tu me disais, toi t'es dans le sud, moi là on enregistre le 31 juillet et j'ai une pensée pour tous ceux qui sont en ce moment sur le GR34 parce que en Bretagne c'est un peu la galère là en ce moment, ça fait quelques jours qu'il pleut, mois de juin a été quand même beaucoup plus beau que le mois de juillet, les pauvres qui sont en vacances en ce moment, j'ai une pensée pour vous. Voilà.
Oui, moi j'ai eu beaucoup de chance, après à part quelques petits jours de pluie, mais vraiment j'ai eu essentiellement du beau temps. Donc voilà, je plains aussi les vacanciers en Bretagne et puis bien entendu tous ces randonneurs qui sont fort nombreux sur le sentier des douaniers.
Alors est-ce que tu pourrais, j'aime bien commencer par ça, s'il te plaît Olivier, te présenter.
Je m'appelle Olivier Mével, j'ai 59 ans, donc je suis dans ma 60e année, et moi je suis marié, j'ai deux enfants, je travaille à Perpignan, dans le sud de la France, Pyrénées-Orientale, mais je suis breton du Finistère, je suis né à Landerneau, Finistère. Et puis voilà, donc je...
Ça a fait du bruit dans Landerneau, cette histoire ou...
Bah, un petit peu, on en parlera tout à l'heure. voilà. Et puis oui, c'est une très belle remarque. Et puis voilà, bah, je suis fier d'être breton aussi, hein, comme voilà, on peut l'être, comme toi aussi, j'imagine. Et puis voilà, bah, après, pour mon métier, j'ai quitté la Bretagne à l'âge de 26 ans. Donc voilà, j'ai mes racines bretonnes, j'ai de la famille toujours en Bretagne, et je remonte dans mon pays 2-3 fois par an.
Et alors, qu'est-ce qui t'a motivé, au-delà de cette historique de breton que tu as, à entreprendre cette longue aventure de 41 jours sur la totalité du GR34 ?
Il y a plusieurs points de motivation. En fait, comme tu disais, donc bien sûr le fait d'être breton, mais aussi d'être ultra trailer. Donc cette association coureur et breton, et pour aussi m'entraîner assez souvent sur le GR34 en Bretagne quand je remonte pendant mes vacances. Bah, c'était en fait une finalité, un but ultime en fait de ma carrière d'ultra trailer, puisque vu mon âge, j'ai commencé tôt. Voilà, je suis de l'ancienne génération des ultra trailers, puisque j'ai fait mon premier ultra il y a 18 ans déjà. Donc j'ai commencé en 2005, et donc ça fait 18 ans que je fais de la course comme je peux, avec un niveau qui n'est pas très très glorieux, mais c'est pas grave, et ça permet quand même de relever des défis, et donc de ce fait, beaucoup d'admiration aussi pour tous ces coureurs, et peut-être effectivement depuis la pandémie, qui se sont aussi donné des défis de faire des trail-off en dehors des circuits officiels. Et donc, par exemple, tous les défis off sur le GR20, sur le GR10, hein, en 2020, c'est en 2021, le 5 juillet 2021, j'ai même accompagné Eric Claverie sur la première étape de son record du GR10, la Transpyrénéenne. Donc ça m'avait marqué, voilà, super. Ce coureur élite là qui partait, et donc je l'ai accompagné sur les sentiers que je connaissais bien, bien sûr, dans les PO. Il y avait même François Denne aussi qui avait tenté de faire un défi sur le GR34 aussi à cette époque-là, mais qui avait été contraint par le Covid de renoncer. Ça s'appelait le Cap West, hein, défi Cap West sur le GR, donc il l'a pas fait. Et puis après, bien entendu, en 2021. Il y a Jérémy Dédoué là qui a porté les bases effectivement d'un record sur le GR34. J'étais même en Bretagne à ce moment-là en vacances quand il s'était lancé du Mont-Saint-Michel. Donc voilà, donc ultra trailer et breton, bah, ça devait un jour me mener sur ce défi.
Alors, toi qui as connu le trail il y a 18 ans, est-ce que tu dirais que, parce que ça c'est un sujet, c'est un débat, les points de vue divergent, qu'est-ce que tu dirais de l'esprit trail, est-ce qu'il a évolué, changé, et si c'est mieux, c'est moins bien, qu'est-ce que t'en penses toi avec ton regard de plus long terme?
Je dirais non, je dirais plutôt non, ça c'est toujours aussi bien. C'est toujours aussi bien. Les courses ultra renommées, elles sont bien aussi parce que voilà, il y a de la sophistication, il y a du clinquant, il y a du professionnalisme. Et puis les autres ultras que je fais aussi régulièrement, ils restent amateurs, ils restent ancrés sur le terroir régional. Voilà, c'est sympa aussi, c'est comme avant, ça n'a pas changé. Non, je trouve que l'évolution, voilà, bien sûr, il y a une évolution générationnelle, il y a de plus en plus de coureurs jeunes aussi sur ces ultras, ce qui n'était pas trop le cas quand j'ai débuté. Il fallait au moins avoir 40 ans pour faire des ultras. Il y a une évolution effectivement générationnelle. Il y a effectivement des marques aussi qui s'impliquent dans le trail running. Moi, je dirais plutôt que c'est il y a de tout pour tout le monde. Voilà, on peut faire son choix, faire des courses locales, régionales, et faire aussi des courses de prestige. Voilà, donc il y a pour tous les goûts.
Ouais, c'est vraiment la parole que j'essaye de distribuer, de dire il y en a pour tous et tout le monde. C'est vrai qu'il y a quelques années, il y a 10 ans, 20 ans, tu pouvais faire que finalement des courses avec qui étaient assez confidentielles. Maintenant, tu as de tout, tu as des grands spectacles, tu as des. C'est comme si il y avait que des petits concerts qui existaient avant et maintenant tu as aussi des Olympiades, des Stades de France, des. voilà. Exactement. Et puis, si t'aimes pas aller dans la foule du Stade de France, il y a toujours le petit concert dans le bar du coin qui continue d'exister. Ouais. C'est vrai, il y en a pour tous et chacun. Voilà. Alors, quand l'idée est arrivée de faire ce GR34, quelles ont été les premières questions, quelles ont été les premières peut-être inquiétudes aussi que tu as eues et comment est-ce que tu as fait pour les soulever?
Donc, la préparation avant ce défi, ça s'est fait simplement, de façon calme. Effectivement, Bah déjà, donc, bah, on peut dire ça de d'emblée, c'est que vu mon niveau, hein, je savais très bien que j'allais pas battre le record du GR34. Alors je me suis dit, tiens, ça serait peut-être pas mal de faire le GR dans l'autre sens. Ça, c'est une base d'emblée là que je me suis dit, tiens, tout le monde fait le GR34, on pourra en parler encore plus tard, mais du Mont-Saint-Michel jusqu'à Saint-Nazaire, et donc je me suis dit, tiens, ça serait sympa en tant que trailer de faire le chemin en sens inverse. Donc voilà, donc je partais sur cette base-là.
Alors je te coupe, mais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on fait ça dans ce sens-là, et pourquoi est-ce qu'on fait pas dans le tien, dans le sens Saint-Nazaire? Est-ce que tu sais s'il y a une raison particulière, ou c'est parce que c'est comme ça?
Ben c'est un petit peu traditionnel effectivement de le faire dans le sens nord-sud du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Loire-Atlantique. Mais c'est tout bête, hein. Quand tu fais le chemin, les balises, elles sont dans les deux sens, hein.
Et oui.
Et bah, toi, sur ton grand raid du Finistère, hein, quand tu pars de Morgade jusqu'au Cap de la Chèvre, les randonneurs, ils sont pas perdus, hein. Ils ont les balises du côté de l'arbre ou de la pierre de leur côté. Donc effectivement, le GR34, il existe dans l'autre sens de façon naturelle. Mais c'est vrai que effectivement, c'est une tradition. On part du Mont-Saint-Michel. Et on va vers l'ouest, mais non, le GR, il commence dans les deux sens. Il y a un départ aussi de Saint-Nazaire. Donc voilà, après, je savais aussi pertinemment que la plupart des quelques trailers qui avaient fait le GR34 en entier en courant, ça se compte sur les doigts d'une main, hein. Ben ouais, ils étaient tous partis du Mont-Saint-Michel. Voilà, on va tenter dans l'autre sens. Et voilà. Après, c'était aussi peut-être à mon niveau modeste, de porter les bases d'un temps de référence sur ce parcours sud-nord.
Et que d'ailleurs, personnellement, je pense que si j'avais à le faire, je le ferais dans ce sens-là, parce que l'arrivée au Mont-Saint-Michel est quand même plus belle que l'arrivée à Saint-Nazaire, je trouve.
Ouais, tout à fait. Après, comme diraient d'autres personnes, le départ aussi est plus joli du Mont-Saint-Michel, mais effectivement, pour l'avoir vécu le 5 juillet dernier, c'était fabuleux, quoi. C'était fabuleux, des frissons. Il y avait pas des spectateurs. Il y avait beaucoup de spectateurs, bien entendu, mais ils n'étaient pas là pour moi. Mais c'était vraiment génial, effectivement, cette arrivée. Et puis, on pourra parler de la spécificité de ce parcours dans ce sens-là. Et il y en aura, à mon avis. Donc, voilà. Donc, défi sportif. De porter cette base-là et dans ce sens-là. Mais après, donc, la préparation calme, sereine, à mon niveau, un entraînement adapté. Et puis, et surtout, ce que j'ai voulu compenser par, effectivement, quelques capacités un peu inférieures aux autres, et malgré mon expérience quand même de plusieurs années, c'est quand même de compenser par la connaissance, en fait, la connaissance du parcours de façon exhaustive. Voilà, donc vraiment, en tant que Breton, en plus moi j'adore la géographie, j'adore la géologie, j'adore les cartes géographiques, j'adore, j'aime bien être... bien orienté, en fait, voilà. Et donc j'ai potassé le parcours sur le bout des ongles, et donc en fait ça rend plus serein, tu vois, hein, quand tu pars dans une aventure comme ça et que tu connais vraiment déjà à l'avance le petit port que tu vas croiser 10 km plus loin, fais attention, ça va tourner à gauche, te trompe pas, donc voilà, donc j'ai potassé ça à fond. Et donc ça m'a rendu effectivement hyper serein, et puis aussi très dans la progression de ma course, ça m'a rendu aussi très très, comment dire, super motivé à chaque kilomètre, quoi. Voilà, parce que je savais que j'allais voir un panorama extraordinaire dans tant de kilomètres. J'allais faire des photos magnifiques. Voilà, chaque jour, ça a été ça. Et ça, ça m'a porté tout le défi. Parce que je savais déjà à l'avance, sans vraiment connaître certains parcours, certaines parties du parcours, ça m'a aidé, ça m'a motivé, parce que je savais que j'allais voir des super trucs dans tant de kilomètres. Et ça, c'était un avantage énorme. Voilà, après.
De quoi tu t'es servi comme outil pour, ou site internet, ou pour justement faire ces étapes et pour cartographier un petit peu toute ton aventure?
Oui, effectivement, sur mon Instagram, même j'avais fait le roadbook jusqu'à justement la fin de ton grand raid du Finistère. J'ai fait le roadbook sur 1100 kilomètres à peu près, les 1100 premiers kilomètres, kilomètre par kilomètre. Voilà, donc j'ai étudié ça sur essentiellement sur Géoportail et Google Street View, et déjà pour repérer les routes, les chemins, etc. Et effectivement, on voit tout hein, sur le Street View de Google, Google Earth, Google Street View de Google simplement, Géoportail, voilà. Donc j'ai étudié le parcours entièrement et jusqu'à l'Anvéoc exactement. Et donc voilà. Donc mais ouais, ça m'a beaucoup aidé après, parce que effectivement, je me souviens très bien souvent sur le parcours, bah tiens, attention, là tu vas tourner à gauche, attention, là tu vas tourner à droite. Donc là de ce côté-là, j'ai pas perdu beaucoup de temps, tu vois. Et je me suis pas trompé souvent non plus. Voilà. Donc et puis voilà, c'était une manière aussi de se motiver hein. Souvent dans les ultras que je fais aussi, je repère le parcours à l'avance aussi. Hein. Ça, c'est un peu mon défaut ou mon avantage, c'est que à chaque fois que je fais un ultra, j'étudie toujours le parcours parfaitement. Quoi.
Voilà. Tu dis défaut ou avantage, alors c'est quoi, défaut ou avantage?
Défaut, ça fait un petit peu le type qui passe beaucoup de temps à étudier la cartographie. Après, bon, non, je pense que c'est important. Je veux dire, des grands navigateurs qui font la traversée de l'Atlantique ou le tour du monde à la voile, etc., ou des grands trekkers aussi, ben, il faut étudier le parcours, il faut essayer de minimiser un peu les surprises. Voilà, je pense qu'en ultra, c'est important de ne pas partir à l'aventure les yeux fermés, faire juste confiance aux rubalises, etc. Moi, je trouve que c'est un avantage de faire ça. Après, faut aussi aimer la géographie, il faut aimer lire les cartes, il faut être un peu passionné de ça, quoi. Et c'est le cas, voilà. Donc j'ai étudié le parcours parfaitement bien, et puis après je me suis fié à mon expérience de coureur, et puis après je me suis entraîné aussi pendant les 6 derniers mois avant la course, je me suis entraîné beaucoup, quoi. Voilà.
Parce que tu avais donc un suivi live Open Runner qui était en place. Du coup, tu avais donc la trace sur ton téléphone. Mmh. Et mais bon, j'imagine que principalement tu suivais le balisage du GR qui a suffi à suivre la trace, ou oui. Finalement oui. Tu devais.
Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Oui, non. Après, faut rendre hommage à la Fédération Française de Randonnée hein, et surtout aux bénévoles de l'AFF Rando, donc Bretagne en l'occurrence. Vraiment, le balisage est très bien, est très bien. Donc ça suffit à suivre. Après, il faut être quand même très attentif aux balises pour pas se tromper. Quand même. Voilà. Donc les balises sont là, mais des fois, vaut mieux avoir un topo guide. Tous les randonneurs qui font les centaines de randonnées, ils ont un topo guide, hein, que ce soit en Bretagne ou ailleurs. Hein. Il faut quand même un support téléphone ou un support papier pour déjà avoir une idée. Tu tournes à droite, tu tournes à gauche. Parce qu'on peut vite se tromper, parce que les balises ne sautent pas aux yeux parfois. Hein, donc, Voilà, donc.
Ouais, puis tu es assez modeste sur ta performance, mais ça fait quand même 52 km par jour en moyenne. Et je pense qu'au bout d'un moment, avec la fatigue, la lucidité qui descend un petit peu, une balise ratée, c'est vite fait, quoi.
Eh oui, mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé par fatigue. Mais ça m'est arrivé par. Des fois, elle est où la balise, quoi. Je la cherche. Et donc, il y avait deux chemins. Et bon, voilà, j'étais obligé de regarder sur mon téléphone. Ouais. Heureusement que j'avais Open Runner pour ça. Ouais, j'ai allumé mon téléphone quand même assez souvent. Voilà. Parce que, effectivement, sur la trace Open Runner, on avait le bon chemin à suivre. Quoi. Voilà. Et donc, parlons effectivement d'Open Runner. Hein. Donc, effectivement, ça a été formidable. Hein, vraiment. Je conseille à tout aventurier futur d'avoir un suivi de ce type. Hein. Bon, déjà le suivi live, c'est vachement motivant. Tu sais que autrui peuvent te suivre, c'est-à-dire tes parents, tes amis, tes collègues de travail, etc. Donc c'est un suivi en direct jour après jour. Voilà, donc ça la trace tu l'as sur ton téléphone, donc si t'as besoin tu peux, pour éviter de se tromper, on vient d'en parler. Ça permet aussi d'authentifier aussi ton parcours, hein, parce que la trace elle est imprimée sur le téléphone jour après jour, donc ça authentifie que tu as réussi à faire le parcours. Et puis aussi, j'ai une anecdote aussi. C'est aussi une sécurité. C'est une sécurité parce que ça nous est arrivé une fois avec mon assistance. On en parlera tout à l'heure. On a eu une panne parce que moi je suis sur Orange. Hein, voilà, peu importe. Hein. Et donc il y a eu une panne, un bug Orange sur la presqu'île de Ruiz, du côté de Sarzeau, dans le golfe du Morbihan. Et donc c'était en plus en fin de journée, donc je devais terminer, il était 19h 19h30, et donc mon assistante devait venir me chercher, et il y avait plus de téléphone, donc le téléphone marchait plus, et en fait ils m'ont retrouvé grâce au suivi live. Et donc ça a été une sécurité, hein, parce que j'étais un petit peu dans la pampa de la côte nord de Sarzeau là. Et donc ils m'ont trouvé comme ça. Voilà, j'ai pu pas finir trop tard.
Voilà. Donc, ah, c'est vrai qu'on n'y pense pas trop souvent, parce que c'est vrai que maintenant le réseau téléphonique est quand même sacrément bien couvert en France. Il y a peu de zones maintenant où on capte pas. Mais c'est vrai que ça apporte une sécurité supplémentaire. Alors, je vais apporter un petit bémol avec une expérience perso sur ce suivi avec Open Runner aussi. Ils m'ont accompagné sur une traversée du GR20 en 3 jours. En fait, on avait dû prendre un autre itinéraire que celui qui était prévu sur la trace qu'on avait prévue, pour des raisons, je sais même plus pourquoi d'ailleurs, mais bref, on avait dû prendre un autre itinéraire. Et en fait, tout le monde était hyper inquiet de nous voir plus sur la trace. Tout le monde pensait qu'on s'était perdu, qu'on s'était trompé. Oui. Alors, on parle pas de quelque chose en 50 jours, donc ça va vite en fait. Tu t'écartes très vite de la trace que tu es. Du coup, tout le monde était hyper inquiet, on pouvait pas communiquer avec ces gens-là. Donc après, au bout d'un moment, ils nous ont vu revenir dessus, donc ça a rassuré tout le monde. Mais c'est dans la communication en amont, en fait, de bien dire. Aux gens qui vont suivre le live, si vous voyez que je m'écarte un peu, paniquez pas.
Ça m'est arrivé aussi, hein, sur plusieurs zones, surtout qu'avec ce suivi live, on pouvait, au niveau cartographique, on pouvait quand même zoomer, hein, donc on pouvait quasiment suivre la trace kilomètre par kilomètre, ou quelques centaines de mètres par centaines de mètres, et donc plusieurs fois, il y a eu des variation de balisage in situ sur la trace du GR34, hein. Par exemple, c'était dans les Côtes d'Armor, c'était du côté de Plouzéoc, Et effectivement, il y avait une pointe qu'on a chantée, parce que le balisage disait, ben non, passage dangereux, la pointe est fermée. Et puis tout de suite après, quelques centaines de mètres, j'ai un coup de fil de mes parents. Ah, ouais, mais au fait, t'as pas fait le tour de la pointe. Ben non, t'inquiète, vous inquiétez pas, je me suis pas trompé, c'était le balisage, c'était comme ça. Quoi. Voilà. Donc voilà, c'était cool, quoi, c'était sympa. Et non, ça a été vraiment extraordinaire ce suivi live. En plus, ça a été sur 40 jours, donc c'était un petit peu un feuilleton quotidien, quoi. Donc les gens qui me suivaient, ils étaient un peu addicts à ça. Ils regardaient ça 2-3 fois par jour. Alors où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Oh là là, il a fait que 20 km à cette heure-ci. Bah, qu'est-ce qui lui arrive? Ou sinon, voilà, il a déjà fait 50 bornes, super, génial. Voilà. Et ça recommençait comme ça tous les jours. Donc c'était vraiment, pour moi, c'était top. Et puis pour les accompagnants, déjà pour mon assistance sur place, ils avaient cette sécurité de savoir exactement où j'étais pour me retrouver. Et puis après, la famille, les amis, etc. Donc c'était top, quoi. Voilà. Donc merci Open Runner.
Ouais, on peut les remercier parce que ils font du très bon boulot Open Runner. J'ai vraiment beaucoup apprécié en plus ces échanges que j'avais eu avec les équipes. Mmh. Donc super d'avoir pu parler de leur service. Ouais. C'est pas un sponsor du podcast d'ailleurs, hein, je tiens à le préciser, mais ça pourrait, hein, pourquoi pas après tout. comment est-ce que, parce que tu vois, quand on prépare comme ça, alors tu l'as dit, t'es assez minutieux sur la préparation, mais l'une des grandes inquiétudes quand on part dans un projet de ce type, c'est de se dire comment est-ce que je vais faire pour me nourrir, pour l'eau, pour m'héberger. Est-ce que tu avais prévu absolument tout ou est-ce que tu t'es dit les réponses viennent en chemin, je trouverai bien une solution?
Non, j'avais tout prévu. Je dis ça de façon modeste, hein, mais pour ce genre de défi, il faut tout prévoir. Il faut pas partir à l'aventure façon aveugle. Hein. Je parle d'un défi trail, hein, trail, course à pied, rando active, rando course. On est obligé de tout prévoir de façon comparative avec un randonneur qui part en autonomie avec son sac à dos de 10 kilos, avec sa tente, son sac de couchage, etc. Il part en autonomie, donc là on part à l'aventure, on est en autonomie totale. Mais pour un défi trail comme ça, comme mes collègues précédents, t'es obligé de tout prévoir. Il faut une logistique, une attendance, il faut une assistance. Donc effectivement, ça se prépare en amont, et tu peux pas partir comme ça à l'aventure. Voilà. Donc tu pars à l'aventure, mais pas à l'aventure. Voilà. Donc effectivement, pour ce genre de défi trail, il faut une assistance. Il faut une assistance. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que c'est une assistance? Ben, il faut des accompagnants qui vont te ravitailler, qui vont organiser le bivouac ou après quelque soit la modalité, hein, du soir. Il faut qu'ils te nourrissent, il faut qu'ils te blanchissent. C'est une logistique assez importante, et pour que tu puisses, toi le coureur, quel que soit le niveau, progresser le plus vite possible, quoi. Voilà, donc ça veut dire, moi quand je partais tous les jours en course, tous les matins, j'avais mon petit sac avec juste une ou deux gourdes et puis une ou deux barres et puis c'est tout, quoi. Donc voilà, je partais le plus léger possible. Et donc parlons de l'assistance.
Allons-y. Comment voilà. Est-ce que tu as fait pour choisir tes compatriotes de voyage?
Et oui, ben ça, c'est très important. Pour moi, un défi trail comme ça, course rando active, c'est impossible sans assistance. Donc, il faut une assistance. Jérémy Dédouet, il avait son épouse qui l'a accompagné. Il avait ses parents aussi. Tu as eu Nicolas aussi sur ton podcast l'autre jour. Ben, il avait trois, quatre personnes aussi en accompagnant. Voilà, il faut une assistance. Donc moi, j'avais mon oncle et ma tante qui ont un van aménagé. Ils m'ont suivi. Ils m'ont suivi sur les 2100 km. Et donc, pour la logistique du soir, on s'arrêtait dans des campings. Donc tous les soirs, voilà. Donc eux, ils dormaient dans leur van aménagé, et moi, le pauvre petit coureur, je dormais dans une tente, voilà. Je dormais dans une tente au camping.
Ça va les lombaires ?
Ça va, bah j'ai pris le meilleur banla pneumatique qui existe sur le marché. 10 cm d'épaisseur, confortable. Voilà.
Mieux qu'à la maison ?
Non, pas aussi bien qu'à la maison. Mais bien sûr, ouais, effectivement, je n'ai pas rechigné sur le prix. Je savais que ça allait durer plus de 30 jours ou 35 jours minimum. Et donc, voilà, il fallait que ce soit confortable.
Tu as le modèle à nous donner précisément ?
Bah, c'était un madelas pneumatique autogonflant. Déjà, pour l'assistance, c'est plus facile à gérer tous les matins et tous les soirs. Et un madelas autogonflant, je ne donnerai pas la marque, mais...
Si, tu peux, hein, c'est pas un souci. Hein.
C'était chez Quechua. Le madelas autogonflant, le mieux. Voilà. Vous voyez, faut juste aller. Et il était super confortable. Et puis, en tout cas, si j'ai mal dormi parfois, c'était pas à cause du madelas, c'était à cause plutôt des bobos. Logistique, une assistance. Il faut une assistance pour te ravitailler aussi plusieurs fois par jour. Donc, on peut parler d'une journée type si tu veux. Hein, une journée type à partir du deuxième jour, bien entendu. Le matin, réveil entre à partir de 6h du matin à peu près. Mes parents m'avaient déjà préparé le petit déjeuner à la veille au soir, parce qu'eux, ils restaient dormir le matin. Hein. Donc moi, j'étais en autonomie le matin. J'avais le petit déjeuner qui était prêt, une thermos de café, de quoi me sustenter. Je faisais un peu de réseau social parce qu'il y a que pendant une demi-heure le matin que je pouvais faire du réseau social aussi pour communiquer un petit peu, pour faire du feedback aussi un peu quotidien. Préparation du départ, ablution, les toilettes, etc. C'est très important ça aussi pour pas avoir de soucis intestinaux dans la journée. Ça, tout trailer, tout ultra trailer, c'est très bien qu'il ne faut pas avoir de problème digestif. Et donc, après départ, entre 7h et 8h du matin, en autonomie, avec mon sac ou une ceinture de portage. Donc, partir le plus léger possible, avec un peu une petite collation dans le sac pour passer la matinée. Et puis après, entre 12h30 et 13h15, je faisais un arrêt déjeuner avec l'assistance, bien entendu. Hein, l'assistance qui me retrouvait facilement parce qu'il y a le suivi live. Bon, il y a le téléphone aussi pour dire bah, « Tiens, au fait, vous me retrouvez à tel endroit, etc. » repas à 13h. Donc un bon repas, bien consistant, hein, parce que c'était important de recharger les batteries. Et ça, ça a été étonnant aussi. Non, ça, c'est une remarque aussi que j'aime bien faire. Mis à part les 2-3 premiers jours où c'est un peu comme sur les ultras, où t'es un peu écœuré, t'as pas faim, t'as quelques nausées, etc. Donc, ça arrive souvent en ultra. Hein, quand tu fais un ultra de 2 jours ou 3 jours, t'as pas beaucoup appétit. Hein. Mais passé ces 3-4 premiers jours, après, le corps s'habitue. Et c'est étonnant. Je faisais 30 bornes le matin jusqu'à 13h. Et j'arrive au déjeuner à 13h, donc déjà ils montaient la petite table de camping, etc., à côté du van, ma tante avait préparé le repas, un repas consistant, une bonne salade, sandwich, morceau de pizza, j'avalais comme un ogre, hein, quoi. C'était incroyable, quoi. Et pourtant, je m'arrête de courir ou de marcher, et tac, un quart d'heure plus tard, je dévorais, quoi. Aucune nausée, aucun a priori, quoi. Donc ça, le corps s'habitue, donc ça, c'était chouette, donc j'ai pu bien me nourrir. Et l'après-midi, je repartais hyper léger, c'est-à-dire que je partais sans rien sur le dos. Voilà, je partais parce que je savais que l'assistance, mes parents pouvaient me suivre de 13h30 jusqu'à 17h30. Ils me suivaient de port en port, de plage en plage. Et donc, en fait, ils me ravitaillaient sur une gourde de temps en temps, un petit gâteau, etc. Donc, je partais léger, sans rien sur le dos. Donc, moins de transpiration, moins de déperdition hydrique, moins de chaleur, etc. Et donc, et à partir de 17h30, je reprenais un petit peu plus d'autonomie. Donc, éventuellement, je prenais une gourde ou deux, je reprenais mon sac, etc. jusqu'à 19h30, 20h. Parce qu'effectivement, l'assistant devait partir installer le camping le soir. Et donc, là aussi, le fait d'avoir étudié très bien le parcours, ben, j'avais aussi repéré tous les campings sur le GR34. Et donc, je savais à peu près, tiens, au fait, là, vu ma progression aujourd'hui, bon, là, ce camping-là, je pense que ça sera trop loin. Et puis on va prendre celui-là plutôt, etc. Donc je leur donnais les directives du camping adéquat et donc ils installaient, ils allaient au camping et puis moi j'arrivais au camping après donc 50 km et tout était déjà installé.
Ouais. Ouais, t'avais pas réservé à l'avance quoi. C'était parce que ouais, si jamais il y avait eu des petits soucis ou au contraire des moments de forme, tu pouvais adapter.
Il n'y a pas besoin de réserver hein, parce que c'était au mois de juin et les campings étaient loin d'être complets. Mmh. Donc en juillet-août, peut-être c'est peut-être un peu différent, mais en juin, donc il n'y a aucun problème pour. Il n'y avait pas besoin de réserver. Voilà. Donc là, j'arrivais à 20h. Douche, bien entendu, hein, très important, une bonne douche bien chaude. Et des habits propres. Et puis après, très important. Le dîner du soir, ben déjà pour recharger les batteries, hein. Et puis la convivialité du dîner du soir, tous les soirs c'était sympa, un retour d'expérience sur la journée avec mon oncle et ma tante, et puis on parlait aussi, on faisait un petit briefing pour le lendemain sur la journée à venir. Etc. Donc ça a été un rituel tous les jours, tous les soirs c'était un peu comme ça et rythmé par des repas différents aussi tous les soirs et donc ça a été un peu une surprise parce que moi je suis un peu gastronome aussi donc et puis on s'est fait des plateaux d'huîtres, on s'est fait des langoustines, on s'est fait des bons petits repas maison, quoi. Donc c'est parce que dans le van, bon, il y avait une cuisine et tout ça, donc ils pouvaient faire la cuisine, ma tante pouvait faire la cuisine, donc c'était aussi super, donc moment de convivialité tous les soirs, donc pour eux aussi c'était sympa aussi d'avoir ce moment convivial tous les soirs, donc c'était bien et voilà donc. Une logistique, une intendance, il faut une assistance pour faire ce genre de défi. Donc nous, on avait choisi ce mode camping-car, camping. Bon, malheureusement, le camping-car n'était pas assez grand pour que je puisse y dormir, moi. Donc Jérémy, il dormait dans son camping-car. Nicolas, il a dormi en chambre d'hôte. J'ai entendu sur un podcast précédent... François, que toi tu souhaitais un jour aussi faire le GR34. Mais voilà, il faut une assistance. Voilà, ça c'est impossible autrement.
Voilà, ouais, bon, en fait, en plus, je pense que ça me saoulerait de le faire tout seul, d'être. Je suis pas quelqu'un de solitaire. Bah, j'aime bien partir à l'aventure, mais au bout de. Je ne sais même pas combien de temps, mais j'ai jamais fait très très longtemps tout seul. Mais quand j'ai fait le GR20 en 5 jours, la deuxième partie, j'ai dû la faire tout seul parce que mon ami n'avait pas pu continuer. Malheureusement, les deux jours et demi que j'ai fait seul, j'étais content que ça se termine. Quoi. Mm. Donc, parce que le partage est quand même...
Voilà.
L'aventure. Quoi.
Ouais, ça fait des moments inoubliables après, hein, effectivement. Non seulement le partage du soir, hein, au moment du repas, du dîner, mais aussi dans la journée, hein, les retrouvailles dans les petits ports, sur les bords de plage, c'était cool, voilà, c'est vraiment un partage super sympa, donc voilà, donc, Donc, dans la préparation avant le départ, ça s'est fait simplement, c'était acté, la tendance, donc avec mon oncle et ma tante. Il faut avoir une chance aussi d'avoir un membre de sa famille qui possède ce genre de camping-car ou de van aménagé.
Moi, j'en ai un, alors ça va simplifier.
Ouais, exactement. Voilà, parce que sinon, à la location, c'est quand même pas donné. Sinon, il faut avoir des sponsors, bien entendu. Donc, moi, je partais off, comme on dit, non sponsorisé de HKZ. Donc, voilà, donc ça compte, bien entendu. Et puis, donc ça s'était acté sur ce problème d'attendance et de logistique. L'entraînement. Donc oui, on peut parler de ça, effectivement. L'entraînement, je l'ai basé aussi sur mon défi que je faisais Sud-Nord. Puisque, tiens-toi donc, François, le savais-tu le dénivelé total de la Loire-Atlantique et du Morbihan, ça fait 3760 mètres de D+, le même dénivelé que ton grand raid du Finistère.
Je suis pas surpris parce que la Loire-Atlantique, c'est le département le plus plat de France. Et sachant que le Grand Raid du Morbihan, ultramarin, fait 1000 de D+, quand tu fais le 177, ça me surprend pas plus que ça. Mais je connaissais pas ce chiffre.
Mais, voilà. Mais toi, ton Grand Raid, il fait 166 km. Et Morbihan, Loire-Atlantique-Morbihan, ça fait 665 km. Donc, en fait, tu n'as que 3700 D+, sur 665 km. Et donc, en fait, c'est pas plat, mais c'est presque plat. Voilà.
Quand même,
donc, en fait, j'ai basé mon entraînement sur ça. Voilà, j'ai fait aucun dénivelé. J'ai fait 6 mois d'endurance, 6 mois de course sur plat, etc., des sorties longues, etc., sur du plat. Et effectivement, arrivé au Finistère, donc 665 km plus loin, tu as quand même 665 km dans les pattes. Et puis, quand il s'agit après de commencer à faire un peu de D+, du côté de Clouard-Carnouët ou de Moëlan-sur-Mer, et puis plus loin sur le Cap Sizun, ça y est, tes jambes, elles sont formatées. Voilà. Le fait de faire Sud-Nord aussi, ça m'a un peu orienté sur mon entraînement. Voilà.
Est-ce qu'il y a un moment dans tout ça, tu nous donnes les belles lignes de cette aventure, mais est-ce qu'il y a eu un moment où t'en as eu marre, tu t'es dit mais qu'est-ce que je fous là, je mets le clignotant
Ça m'a effleuré l'esprit, mais pas plus que ça. Pas plus que ça, parce que, honnêtement, ouais, peut-être que ça m'a effleuré un petit peu. Je me suis dit, parce qu'on n'a pas parlé des bobos encore. Les bobos, ils sont surtout venus en début de parcours. Et donc, ça a été dur, effectivement, au début. Et puis après, ça m'a effleuré l'esprit, comme quoi, essaye d'arriver jusqu'au Cap Sizun au millième kilomètre, et puis peut-être que tu vas bâcher après, ça sera déjà pas mal, Olivier, 1000 kilomètres, c'est pas mal, tu verras quoi. Mais non, parce que en fait, et peut-être c'est le conseil que je donnerais aussi, en fait il faut vivre ce genre d'aventure au jour le jour, voilà. Au jour le jour, étape par étape, sont vraiment. Enfin, chaque soir, je savais pas trop bien non plus où est-ce qu'on allait s'arrêter non plus tous les soirs, mais je savais à peu près très bien qu'une étape faisait entre 45 et 55 km à peu près par jour. Mais c'était une expérience au jour le jour, et comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais avide de découverte de beaux paysages, avide de faire des belles photographies. De filmer aussi, parce que j'avais une caméra. Et donc, en fait, j'étais comme un enfant devant le sapin de Noël qui allait découvrir un nouveau beau paysage, quoi. Une belle falaise, un beau coucher de soleil, un beau lever de soleil, un beau petit port, un marée haute, marée basse, etc. Donc en fait, c'était au jour le jour, kilomètre par kilomètre, et ça m'a fait avancer sans réfléchir au lendemain. Voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivé de jour en jour, un peu plus loin, etc. Et ce qui est important aussi, c'est que dans ce genre d'aventure, t'as pas de barrière horaire. Hein. T'as pas de barrière horaire qui te dit stop, faut s'arrêter, tu rends ton dossard. Il y a des jours où je me suis arrêté parce que j'en avais ma claque. Hein, donc c'est le plus faible kilométrage des 42 jours, hein, parce que c'est 42 jours, c'est 41 jours et 8 heures en tout. Le plus faible kilométrage, c'est 38. Donc ça, c'était 38 kilomètres, je crois que c'était au début. Et puis, une seule autre fois, je suis descendu sous le marathon, c'était un 41 avant le Cap Fréhel. Voilà. Donc sinon, après, quasiment plus d'un marathon tous les jours. J'avançais au jour le jour. Et puis quand il fallait s'arrêter, je m'arrêtais. Oui, ce dont j'avais pas parlé aussi tout à l'heure, c'est que malheureusement, c'est vrai que l'idéal c'était de s'arrêter sur un camping tous les soirs. Mais ça, il est quand même arrivé souvent où soit c'est l'horaire qui est trop tardif, ou soit que t'es un peu trop fatigué le soir, tu t'arrêtes à un endroit où il n'y a pas de camping. Et donc, tu arrêtes ton chrono parce que donc entre guillemets c'était un petit peu officiel hein, sur Open Runner. Donc tu arrêtes le chrono Open Runner, pam, mais tu te retrouves comme par exemple au Cap Sizun, je me suis arrêté à la pointe de Brézélec que tu connais, juste après la pointe du vent. Je me suis arrêté pointe de Brézélec et l'étape était à Dordonnée, hein, je me suis arrêté.
C'est pas la portion la plus facile du GR.
Et non, c'est pas la portion la plus facile de GR. Donc tu vois, il y a quand même, c'est arrivé souvent. Et donc ça, c'est pas l'idéal. On va en parler. Tu t'arrêtes. Il faut venir te chercher. Il faut venir te chercher le soir. Donc soit c'était souvent mon oncle et ma tante qui venaient me chercher. Là, c'était mon cousin qui est venu me chercher parce que à Dordonnée, j'ai dormi dans un lit. Parce que j'ai mon cousin qui habite Dordonnée. Donc là, c'était mon premier lit après 1000 kilomètres. Donc c'était génial. Et ce qui est important, le lendemain matin, il faut te ramener à l'endroit où tu t'es arrêté. Et oui. Donc ça aussi, point de Brézélec d'Ordonnée, t'avais 30 minutes de voiture. Hein. Donc l'idéal, effectivement, c'était de pouvoir s'arrêter à un camping parce que après, le lendemain matin, t'étais en autonomie. Ça te permet à ton assistance de pas se réveiller tôt et de partir du camping et aussi souvent de partir plus tôt. Hein. Et donc, des fois, tu avais un quart d'heure, une demi-heure, jusqu'à même, on a eu trois quarts d'heure de route, une fois. C'était dans le Morbihan. Je m'étais arrêté à la pointe de Penbé. Dans le Morbihan. Et puis, on avait notre camping à Ambon, à Bétaon. Voilà. Donc, il fallait faire le tour par la voie express, il fallait faire le tour par le barrage d'Arzal. Et donc, en plus, on est arrivé au barrage d'Arzal. Le barrage d'Arzal, il était fermé, c'est-à-dire que les bateaux qui passaient, donc le pont était monté. Donc, on a attendu 20 minutes. Donc, tu vois, ça nous a pris 50 minutes à peu près pour faire le circuit, pour me relâcher là où je m'étais arrêté la veille. Voilà. Donc c'est pour ça que, en fait, moi, je m'astreignais le plus possible à m'arrêter sur des campings pour que aussi le matin je puisse partir plus tôt, quoi. Voilà. Donc en fait revenir sur ta question initiale, je dirais plutôt non, j'ai jamais eu envie d'abandonner. Voilà.
Mais en même temps, des moments difficiles, c'est un peu logique, compréhensible. Ouais. Est-ce que il y a eu des j'imagine que oui, hein, je dis est-ce que, mais ma question est plutôt quels ont été les moments les plus mémorables, si tu avais une ou deux anecdotes comme ça à nous partager celles qui te viennent en tête immédiatement quand tu as.
Bon, ça, ça sent déjà la question de la fin, ça.
Non, pas du tout.
J'ai tellement d'autres choses encore à dire.
Moi aussi, j'ai plein d'autres questions.
des moments mémorables, oui. Ben, il y en a plein. Il y en a plein. Enfin, il y en a plein, oui, bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais dire j'ai beaucoup apprécié. En plus, c'était assez, comment dire, waouh quand même. Hein. Donc, rappelons que bon, Nicolas qui a battu le record du GR34 hein, en 25 jours et 8 heures. Ben, on était tous les deux sur un suivi live Open Runner. Hein, donc, on se connaissait déjà par Open Runner interposé. Et donc, lui est parti 6 jours après moi. Donc, en fait, on était sur le sentier en même temps. Mais en fait, on est parti chacun dans le sens inverse, quoi. Il est parti de Mont-Saint-Michel et moi, je suis parti de Saint-Nazaire. Et on savait pertinemment que on allait se collisionner, quoi. On allait se percuter à un moment ou à un autre, quoi. Et ça a été fun parce que ce moment, je doutais aussi peut-être que ça allait arriver un jour, parce que peut-être que j'allais pas réussir à progresser aussi loin, etc. Et en fait, on s'est croisé. Pour moi, ça a été un moment fort parce que c'était un moment attendu, tu vois. Et on s'est croisé au Cap Sizun. On s'est croisé au Cap Sizun sur la côte nord, donc la plus difficile en plus. Et donc moi, je venais juste de passer les 1000 kilomètres. Les 1000 kilomètres. Et donc lui était à 1100 kilomètres. Il était à 1100 kilomètres de parcours. Et donc, gros coup de bol. Donc moi, quand je suis arrivé à l'endroit où on s'est croisé, il y avait Jérôme, son vidéaste, qui était déjà là sur un coin peut-être assez difficile d'accès. Moi, tu connais bien le Cap Sizun. C'est pas si facile que ça de trouver un endroit proche avec un parking voiture pour accéder après au GR pour éventuellement donner assistance à ton coureur, quoi. Donc c'est pas facile. Et puis on s'est croisé avec Nicolas juste à l'endroit en fait où Jérôme, son vidéaste et assistant, avait trouvé effectivement juste un endroit idéal pour faire le coin pique-nique pour Nicolas. Et donc pile poil juste quand j'arrive, j'entends le drone parce qu'il est en train de filmer avec le drone Nicolas. Et j'entends le drone au-dessus des falaises de Poulan-sur-Mer. Et puis, oh là là, je pense que ça y est, c'est bon. Parce que je savais, j'avais regardé son Open Runner, je savais où est-ce qu'il était exactement. Et c'est bon, j'entends le drone, ça doit être Jérôme qui est en train de me filmer, etc. Et puis Jérôme qui me dit, ah Olivier, c'est toi, ouais, super, mais arrête-toi, il y a Nicolas qui est juste en bas de la crique, là il est en train de monter, etc. Donc voilà, donc on s'est... Et voilà, et puis il était aussi dans un moment difficile, hein, mais je crois qu'il avait des problèmes de pied à ce moment-là. Et puis, paf, donc on se collisionne, comme disait Eric d'Open Runner, la collision est arrivée, et puis donc on a échangé après pendant une demi-heure sur son coin pique-nique. Donc ça a été un moment sympa. Et puis voilà, donc ça c'était top. Et après bon, après chacun est parti dans son sens, bien entendu, pour poursuivre son chemin.
Et les autres randonneurs que tu as croisés ou les autres promeneurs, est-ce qu'il y a eu des moments où parce que c'est difficile, parce que les gens, il y a beaucoup de gens à se promener sur le GR, mais tu vois, un randonneur qui va croiser quelqu'un qui marche vite ou qui court, il en voit plusieurs, mais il n'a pas forcément conscience qu'il est en train de faire tout le GR. Quand tu as discuté avec 2-3 personnes comme ça, il y a eu des rencontres où les gens, ils te disaient mais qu'est-ce qu'il fait?
En fait, moi, j'ai rencontré beaucoup de randonneurs. Hein, donc, effectivement, dans ces cas-là, tu les croises en face de toi, parce que il faut dire, et comme on le disait tout à l'heure, la plupart des randonneurs font le trajet Mont-Saint-Michel nord-sud, quoi. Donc en fait, j'ai pas dépassé des randonneurs, c'est-à-dire les randonneurs qui j'en ai quasiment croisé aucun qui faisaient le sud-nord. Donc en fait, tous les randonneurs que je croisais, ils venaient en face de moi, et moi, comme je marchais vite ou que je courais, et comme j'en ai rencontré beaucoup, bah, je me suis pas arrêté à chaque fois pour discuter pendant 5 minutes avec eux, parce que en plus on est chacun dans un sens opposé, donc on se croise assez vite, tu vois. Et donc, par contre, moi, systématiquement, je disais bonjour parce que on les reconnaît, les randonneurs de GR34. Hein, ils ont tous le sac à dos de 10-15 kilos, bien équipés, etc. Et donc, je mesurais le chemin aussi qu'ils avaient déjà parcouru parce que voilà, je savais d'où ils venaient. Et donc, en fait, on se saluait brièvement, mais je ne pouvais pas non plus m'arrêter à chaque fois, à chaque randonneur, parce qu'il y en avait quand même beaucoup, hein, sur le parcours. Et donc après, par contre, là où je me suis souvent arrêté, c'est quand j'ai croisé des trailers qui faisaient des entraînements sur le GR, des trailers locaux, que ce soit dans les Côtes d'Armor, en Finistère, etc. Et donc, bah, là, je leur disais, bah, tiens, au fait, salut, ça va, l'entraînement, ça se passe bien. Voilà, bah, moi, je leur disais, bah, ça y est, moi, je fais le GR34 en rando-course, quoi. Ah bon? Voilà, ils étaient un peu étonnés, effectivement. Bah, non, et puis, voilà, donc, on discutait de trois choses, etc. Et puis, c'était sympa, quoi. Voilà. Donc, quand c'était des trailers, effectivement, je m'arrêtais pour discuter avec eux. Mais c'est vrai que force est de constater que des randonneurs, dans mon sens à moi, ben, il y en a quasiment pas, j'en ai pas croisé beaucoup, quoi. Voilà. Sauf une fois sur la dernière portion, enfin sur le dernier jour, hein, ben, des randonneurs qui étaient partis de Saint-Malo et qui arrivaient au Mont-Saint-Michel. Effectivement, j'ai pas manqué de leur poser la question. Ben, au fait, c'est étonnant. Vous faites la rando dans ce sens-là. voilà. Donc, sinon, autre moment mémorable aussi, et ça aussi, je pensais peut-être voir jamais arriver, en fait, parce que c'était quelque chose que je n'imaginais peut-être pas possible d'aller aussi loin. En fait, je suis allé me recueillir sur la tombe de mes arrière-grands-parents. C'était à Roscoff, en Finistère. Donc là, on est à 1200, 1300 kilomètres à peu près déjà. Hein. Et donc, mais je m'étais promis que si j'arrivais jusqu'à Roscoff avant de partir, bien entendu, hein, j'irais sur la tombe de mes arrière-grands-parents, parce qu'en fait, le cimetière de Roscoff, c'est un vieux cimetière, en fait. Qui se trouve, il y a le mur du cimetière qui est au bord du GR34. C'est quand même étonnant. Et il se trouve à la partie nord de la ville de Roscoff. Et donc, je m'étais dit, bah, si je passe là, si j'arrive jusque-là, bah, j'irai me recueillir sur la tombe de mes arrière-grands-parents. Et donc, ça, je l'ai fait et j'en suis fier.
Donc, ça, ah, c'est vrai que ça doit être un moment émouvant, parce qu'en plus, t'as la fatigue, t'es un peu à fleur de peau hein, quand c'est comme ça, j'imagine. Donc tout est un petit peu amplifié et il doit y avoir une certaine fierté aussi d'être arrivé jusque-là sur ce chemin.
Parce que si j'étais là à ce moment-là, bah, c'était aussi grâce à eux. Parce que si mes arrière-grands-parents n'avaient pas existé, bah, j'aurais jamais été là non plus. Donc voilà, c'était vraiment... un moment que je m'étais promis de faire, et puis ça s'est réalisé, donc voilà, j'en suis fier, et donc ça c'était mémorable, effectivement. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi, se retrouver aussi à Vannes, passer à Vannes en plus dans ce sens-là, hein, dans le sens sud-nord. Bah, passer sur le quai nord de Vannes, lieu de départ de l'ultramarin. Ça fait drôle, hein. Donc c'est comme si je débutais vraiment sur la ligne de départ de l'ultramarin auquel j'ai participé plusieurs fois. Je me retrouvais sur la ligne de départ, mais j'avais déjà plus de 300 km dans les pattes, tu vois. Donc et je partais dans le sens, encore que cette année ils l'ont fait dans l'autre sens, mais je partais dans le sens habituel de l'ultramarin qui partait après vers Conlo, vers Aradon, Baden, l'Armor Baden, etc. Donc ça fait un petit pincement aussi. Bah, tiens, je me retrouvais au départ de l'ultramarin que je connaissais bien et donc c'est comme si je commençais un ultramarin après 300 km déjà dans les jambes. Quoi. Voilà, donc ça c'était cool aussi. Voilà, une petite anecdote aussi. C'est assez étonnant. Le GR34, maintenant on commence à le savoir. On prend une fois le bateau. Tu sais, donc à Concarneau, on prend le bac.
Le bac, quoi.
On prend le bac du passage, exactement, qui mène à la ville close de Concarneau.
Sur 20 mètres, mais on prend le bateau.
Voilà, c'est étonnant. Il y a un moment où on marche pas, encore pas, on prend le bateau. Et donc, j'arrive à Concarneau, et je, à quelques centaines de mètres du bac, je vois des touristes qui s'en allaient, quoi. Donc, je me dis, tiens, ils viennent de descendre du bateau, probablement. Oh là, dépêchons, je me mets à courir, et j'arrive juste pile poil au niveau du bac, et il allait repartir pour aller chercher les clients à la ville close en face, et boum, j'arrive juste à son départ, oh, stop, je monte, ok, vas-y, montez, et j'étais tout seul, donc c'est-à-dire que je suis arrivé au bac, et j'ai attendu 0 seconde pour prendre le bac, ça c'est top. Bon, après, on n'est pas à une minute près hein, dans ce genre de défi, bien entendu, hein, mais c'était cool hein, de ne pas avoir à attendre. Et puis, en plus, j'étais tout seul dans le bac, voilà, 0 personne. Donc, j'ai traversé tout de suite. Moi, effectivement, comme tu dis, ça prend 5 minutes. Et puis après, j'ai traversé la ville close avec tous les touristes, etc. Donc, c'était cool. Voilà. Et puis après, je suis parti vers la forêt Fouesnant, etc. Voilà. Donc, ça, c'était un moment aussi sympa. Ça c'est les moments un peu cool quoi.
Après, est-ce que t'as eu des enfin j'imagine l'entretien des pieds, des frottements, ouais. Tout, comment est-ce que t'as géré tous ces soucis de entre guillemets soucis de santé qu'on connaît quand on fait des aventures longues comme ça?
Ben oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais ça, moi je l'ai esquissé tout à l'heure, mais ça a été terrible. Hein, mais je pense que c'est l'apanage de tous les coureurs qui ont fait ce genre d'aventure. Hein, je sais pas si tu as vu le film de Jérémy, hein, Pérégrination bretonne.
Si, j'ai vu. Ouais.
On le voit déjà avec une ampoule au pied à J2. Hein. Bon, certes, il avait pris la pluie à. Il avait pris la pluie au deuxième jour, les pieds mouillés, mais voilà. Donc en fait, oui, c'est l'apanage de ce genre de choses. Et puis c'est drôle, quasiment les seules fois où j'ai pris des ampoules, c'est en Bretagne en fait. Voilà, je ne sais pas si le fait qu'il y ait l'association chaleur, hygrométrie, fait qu'on, oui, peut-être avec la poussière, le sable, etc., sur le passage sur les plages, etc., on chope plus facilement des ampoules qu'en montagne. Voilà, c'est un peu mon avis. Et donc, en fait, ça a été terrible. Ça a été terrible, terrible, terrible. Donc, dès le troisième jour, à peu près. Ouais, troisième jour. Donc, déjà, passage dans le Morbihan. Bon, des ampoules, hein, des gros feux tricolores, quoi. Mais bizarre, uniquement au pied gauche. Voilà. Grosse ampoule. Voilà, donc il a fallu gérer simplement. Voilà, simplement, je ne me suis pas pris la tête. Bon, j'avais déjà expérimenté ça sur l'ultramarin, notamment. Je savais que ça allait arriver, de toute façon. Et donc, j'ai géré ça simplement, parce qu'en fait, ces ampoules, même si elles étaient parfois importantes, notamment sur la plante du pied, mais à la partie distale de la plante du pied, les ampoules elles faisaient pas mal en fait, elles étaient juste gênantes, voilà. Donc j'ai pas eu mal avec les ampoules, mais c'était une gêne à chaque pas, hein, bien entendu, hein. Et en fait j'ai géré ça simplement, juste à une hygiène irréprochable, donc bien nettoyer tous les pieds tous les soirs, de la pommade cicatrisante. Mais sinon rien, pas de pansement, pas de compide, rien du tout, hein, vraiment. Et j'ai même, façon un petit peu rigolote, un petit peu ironique ou un petit peu, comment dire, fantaisiste, j'ai appelé ça le syndrome que j'ai réinventé, le syndrome du grognard napoléonien.
C'est que ce syndrome.
Je l'ai inventé en fait. Est-ce qu'il y a d'autres fous qui peuvent faire effectivement 2000 km de marche ou de course avec des ampoules aux pieds sans vraiment les soigner quoi. Bah, n'importe quel ultra trailer qui a des ampoules, bah, il fait son 100 km ou 160 km. Ou après, s'il fait le tour des gens, c'est un peu plus long, bien entendu. Mais après, il s'arrête, il se repose à la maison, il soigne ses pieds, etc. Et puis, ça finit par cicatriser. Mais non, quand tu fais un défi de GR34 ou d'autres qui est aussi long, bah, tes ampoules, tu vis avec, quoi. Tu vis avec et tu peux pas... T'es obligé d'attendre que ça évolue de façon naturelle, quoi. Et donc, le syndrome du grognard napoléonien, bah, c'était un petit peu... Je me dis, tiens, j'imagine les grognards de Napoléon qui sont partis du camp de Boulogne... en 1805 pour aller à Austerlitz, ils ont fait 1000 km ou 1200 jusqu'à Austerlitz. Ben, à l'époque, ils n'avaient pas des Oka impérial ou des Salomon maréchal, hein. Ils n'avaient que des vieilles chaussures. Je sais pas s'il y avait comme bottines à l'époque, mais, et puis ils devaient avoir des sacrées ampoules aussi, hein, en marchant, hein. Donc, et puis, ben, ils continuaient à marcher et puis ils les soignaient pas, ils avaient pas de noc, ils avaient pas de compide, ils avaient pas de pansement, etc. Et puis, ben, ils continuaient à marcher avec leurs ampoules et puis ça finissait par guérir ou cicatriser, etc. Ben, je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté cela. Bon, je te dis, j'ai juste mis que de la pommade et après, bon, une hygiène, bien sûr, impeccable, hein, changer de chaussettes régulièrement, etc. Et en fait, les ampoules finissent par cicatriser. Même que tu entretiens l'inflammation, tu entretiens l'irritation permanente, parce que tous les jours, c'était 50 bornes, et ton ampoule qui était grosse de 3-4 cm² sur la plante du pied gauche, et ben, au bout de 15 km, ou d'une quinzaine de jours, ben, elle avait fini par cicatriser. Ça, c'est étonnant quand même.
C'est dingue ça.
Ouais. Donc, s'il y a des podologues qui nous entendent, ouais. S'ils veulent faire un mémoire de fin d'études sur cette particularité, non, je rigole. Mais oui, donc j'ai expérimenté cela. Effectivement, les ampoules ont cicatrisé.
Parce que souvent, en fait, j'ai reçu des podologues, hein, sur le podcast et. Quand tu leur parles de continuer sur une ampoule, ils te parlent de comment ça peut dégénérer,
ouais.
Mais rarement de comment ça peut cicatriser si tu insistes dessus, quoi.
Et oui, parce que personne n'expérimente jamais ça, hein. Parce que on s'arrête, hein. Habituellement, on s'arrête et puis on se repose. Mais là, effectivement, les 42 jours que j'ai fait, j'ai pris aucun jour de repos, hein. Et pourtant, j'avais ma famille au téléphone. « Ah, Olivier, tu devrais quand même t'arrêter 24 heures, machin, truc. » Non, 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 non. Et donc, effectivement, bah, c'était tout le jour. On remettait le couvert tous les jours. Voilà. Donc, voilà. Donc, ampoule au début. Ampoule au début. Apparemment, je pense que c'est inéluctable. Hein. Nicolas aussi, il le disait, hein, qu'il a eu des ampoules aussi. Hein. Tout le monde a des ampoules dans ce genre de choses. Et puis j'ai une tendinite au coup de pied droit pendant quelques jours aussi, donc ça c'était un peu pénible. Mais sinon, ça s'est bien passé. Hein. Au niveau des jambes, des cuisses et tout ça, il n'y a pas eu de problème. Si, j'ai eu deux chutes aussi. J'ai fait deux chutes, tu sais, sur des moments de fatigue, tu prends un pointu, un petit caillou, un rocher, ouais. Etc., sur le parcours en trottinant ou en courant. Et après, tu t'affales.
Moi, j'appelle ça le caillou qui traverse la route.
Voilà, c'est ça, exactement. Bah, ça m'est arrivé deux fois, et donc, deux bonnes chutes, tu vois, hein, parce que avec la célérité de la course, ou la marche rapide, pouah, voilà, et puis la fatigue, là, tu te prends, tu tombes avec les mains en premier, le bras, donc, bien écorché, tu vois. Et même la deuxième fois, c'était à Landunvez en Finistère. Et là, je suis bien tombé. Là, la deuxième fois, je suis bien tombé. J'ai même eu peur de me casser une côte. Hein, donc, c'est pour te dire. Donc, j'ai fait mon auto-diagnostic un petit peu, et mon check-up, et bon, puis c'est finalement c'était pas si grave que ça.
Donc j'ai... Et alors sur ton équipement, sur ta façon de faire et de gérer, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment si tu avais su, ou est-ce que tu changerais rien?
Bon, c'est difficile à répondre. Je pense que l'avoir fait en 41 jours, ben, je suis à mon niveau. Je suis à mon niveau de trailer, voilà. Et donc, j'aurais rien changé parce que en fait, j'ai essayé d'avancer toujours au plus vite, bien entendu, en rando-course, marche rapide, etc. Qu'est-ce que j'aurais changé? Je pense que effectivement l'idéal peut-être c'est d'avoir peut-être un confort pour dormir le soir un peu meilleur que dans une tente. Je pense que l'idéal effectivement c'est d'avoir une couchette un peu plus confortable dans un camping-car, dans un van. Ça à mon avis ça serait peut-être ça l'idéal à changer. Bon, sinon il y a d'autres coureurs qui ont des chambres d'hôtes le soir. Pour ne pas citer notre ami. Voilà, donc effectivement, c'est vrai que mon confort nocturne n'était pas extraordinaire, même si j'ai quand même évité les grosses pluies, etc., l'humidité, donc il a quand même fait plutôt beau tout le parcours. Voilà, le confort du soir, ça serait à changer à mon avis, mais sinon après... Après, au niveau matos, il faut des bonnes chaussures. Hein, faut des bonnes chaussures dans lesquelles tu as confiance.
Tu en as utilisé combien de paires?
Moi, j'en suis parti à 4 paires. 4 paires. Et donc, j'ai surtout couru sur 3. 3 paires. Il faut ça, c'est un minimum. Hein, parce que si tu t'attrapes de la pluie, tu as les chaussures mouillées. Si tu, malheureusement... parce que parfois il y a des marées hautes, etc. Donc tu peux avoir aussi des pieds dans l'eau de mer de temps en temps, ça peut arriver. Donc après tu as les chaussures mouillées et puis elles mettent 2-3 jours à sécher. Hein. Donc là il faut avoir des paires de rechange. Donc voilà, donc, minimum 3 paires. Après du matériel d'ultra classique, hein, un bon t-shirt technique. Voilà. Ce que je recommande,
le bon matériel, c'est celui qu'on connaît, comme on dit.
Ouais, celui qu'on connaît habituellement, avec lequel on a l'habitude de courir. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que en fait j'avais la ceinture de portage, hein, pour ne pas citer la marque. Et en fait, je l'avais depuis.
Tu peux citer des marques, hein, c'est pas un problème. Hein.
Ouais, c'est une ceinture Compressport, super super ceinture. Et en fait, je l'avais dans mon matériel. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'en fais finalement manque de clairvoyance. En fait, pendant effectivement les deux tiers du parcours, en fait, je partais tous les matins avec mon sac à dos, et donc en fait le sac sur le dos, donc tu transpires davantage, etc. Donc c'est toujours un peu plus gênant. Et je me suis rendu compte que finalement sur la dernier tiers du parcours, je suis parti le matin qu'avec ma ceinture de portage, dans laquelle je pouvais mettre une gourde. Je pouvais mettre une gourde, des barres, le téléphone, et ça me suffisait. Voilà, ça me suffisait parce que après l'assistance, je pouvais même la retrouver à 11h du matin. Et en fait, courir ou marcher rapide sans rien sur le dos, ça c'est super confortable. Voilà, tu transpires moins, donc tu perds moins d'eau aussi, tu te déshydrates moins et c'est super confortable de pas avoir de sac. Donc j'ai fait cette erreur parce que pendant pas mal de temps j'ai eu le sac le matin et j'ai pas eu cette clairvoyance de prendre ma ceinture. Voilà, donc ça je recommande dans un défi trail comme ça avec une assistance, c'est de partir juste avec la ceinture. Voilà. Et une bonne veste imperméable. parlons des pluies. Oh bon sang de bonsoir. 5 jours de pluie. 5 jours de pluie. Une fois dans la première pluie dans le sud Finistère, ça veut dire 14 jours de soleil, je dirais plutôt de canicule, les 14 premiers jours de soleil, donc ça n'a pas aidé non plus à appréhender le début du défi. Donc fatigue, chaleur, déshydratation, les ampoules, etc., etc. Donc 14 jours, vraiment 14 jours de canicule. Hein. Vraiment, c'était l'après-midi. Bon, il faisait 27-28 degrés à l'ombre. Non, mais quand t'es en plein soleil sur les plages et avec la réverbération, bah là t'es à 35-40. Là, hein. Non, c'était chaud. Et donc premier orage à Tréguin, entre Trévignon et Poudouan. Alors gros orage, et en plus j'étais parti sans ma veste, parce que mince la veste, j'ai pas envie de la prendre. En plus quand je suis parti il pleuvait pas, et donc là gros orage, oh là, j'ai pris la sauce. Moi, j'étais en arrivant à Concarneau, j'étais trempé. Deuxième pluie à Paimpol, en face de l'île de Bréa. Là j'ai pris la sauce aussi. Oh, la sauce bien mouillée, mais là j'avais ma veste. Et en fait, c'était quasiment la première fois que je testais ma veste de la même marque qui te sponsorise, Simalp.
Une belle veste.
Merci,
Simalp. Qui m'a sauvé la vie.
Ouais. Et ben, moi, ça ne m'a pas sauvé la vie, mais ça vraiment, je l'ai testé pour la première fois, parce qu'à chaque fois que j'ai fait des ultras, j'ai eu beaucoup de chance. À chaque fois, il a fait beau sur des ultras à Chamonix, au Val d'Aran, et même par chez moi, hein, le 100 miles sud de France, etc. Donc à chaque fois, j'ai de la chance, il fait beau. Donc on a toujours la veste dans le matériel obligatoire, mais je m'en suis jamais servi. Et là, bah oui, en Bretagne, c'est au moins une fois quand même. Et donc là, j'ai testé pour la première fois à Paimpol, et bah c'est cool. Voilà, c'est cool, bah c'est bien imperméable. Bon, j'avais le pied mouillé, bien entendu, le short mouillé, mais le haut du corps bien à l'abri. Troisième pluie à Planguenoal, quatrième pluie à Saint-Malo, et donc l'avant-dernier jour. Alors t'es au 40e jour du défi et tu prends la saucée de ta vie. La saucée de ta vie, t'es à Pointe du Groin. Je sais pas si tu connais la Cancale. La Pointe
si,
du Groin.
Ouais.
En plus, les falaises sont pas faciles. Tu te dis que t'es arrivé à la Pointe du Groin, ça y est, c'est bon, t'es terminé, t'es arrivé, c'est facile. Eh ben non, entre la Pointe du Groin et Cancale, c'est compliqué, c'est beaucoup de dénivelé, des montées-descentes, et là, tempête à la Pointe du Groin. Heureusement, j'étais côté est de la Pointe du Groin pour aller vers Cancale, mais j'ai pris la sauce. Vraiment le gros orage. Donc, sur Insta, j'ai posté quelques vidéos sur ça. Et donc, les chemins, c'était des ruisseaux. Tout d'un coup, les chemins sont transformés en ruisseaux.
Voilà. L'orage de montagne, quoi.
C'est ça, l'orage de montagne sur les huîtres de Cancale. Et donc vraiment trempé, c'était, et en plus c'était incroyable, c'était l'avant-dernier jour, quoi. Tu te dis super, t'es presque arrivé, ça y est, youpi, tu termines ton défi, et ben non, jusqu'au bout tu prends la grosse pluie, la galère d'ultra trail, quoi. On avait notre ami l'autre jour récemment, hein, sur ton podcast là, qui parlait de gros orages au Val d'Aran. Voilà, c'était
Florent Beaufils.
Ouais, Florent. Bonjour Florent.
Épisode 243.
Et bon, voilà, sans aucune commune mesure avec ce qu'il a vécu, mais quand tu te retrouves quand même entre la Pointe du Groin et Cancale sur les falaises, et que bien sûr, il n'y a plus un seul randonneur, t'es tout seul, hein, quand il y a une grosse pluie comme ça. Et que tu te retrouves sur des chemins un petit peu de falaise, et avec la grosse pluie, il y a du vent en plus, hein. T'es un peu les chaussettes quand même, hein, effectivement. Tu te dis, putain, l'avant-dernier jour, excusez-moi un petit peu du langage, mais t'es pas épargné, quoi, jusqu'au bout, quoi. Voilà. Et donc, juste aussi, l'anecdote, c'est que, après Cancale, tu continues un petit peu, et là, bon, sur Défi Sud-Nord en tout cas, tu te dis, ça y est, tu vas arriver à l'endroit où tu arrives au dernier semblant de falaise. Des 2100 km, c'est les dernières falaises que tu vas rencontrer de ton défi. Ça y est, tu plies bagages, c'est terminé, Le dénivelé, c'est terminé, parce qu'après, la dernière étape, jusqu'au Mont-Saint-Michel, après, c'est plutôt du plat, hein, bien entendu. Et l'anecdote, c'est que au dernier semblant de falaise, ça, c'était au niveau du château, Richeux. Ça aussi, c'est pour la FF Randonnée, si jamais ils nous écoutent. Au niveau du château Richeux, à Saint-Méloire-des-Ondes, donc juste avant d'arriver sur le plat à 0 mètre de dénivelé positif, hein, t'as un semblant de dernier rocher, de falaise, etc. Et juste là, j'arrive à marée haute, et en fait, le sentier, le GR, passait normalement sur la plage pour contourner la pointe rocheuse pour arriver là où c'était terminé le dernier rocher, c'était fini, 2100 km pacté, quoi. Eh ben non, marée haute, impossible de passer au dernier rocher, et en plus, il n'y a pas de balisage de substitution, c'est-à-dire que tu te retrouves à cet endroit, marée haute, pour franchir ce passage, bah, tu peux pas. Et il était hors de question que je me mette, parce que la marée c'était un gros coefficient en plus à ce moment-là, donc je pouvais pas passer à pied. Hein.
Donc, en mode swimrun, ça part.
Oui, ça aurait pu être du swimrun. Mais non, j'ai pas pris ce risque. Et donc, en fait, il n'y avait pas de balisage de substitution pour marée haute, à cet endroit-là en tout cas. Donc, ça serait bien qu'ils en mettent un la prochaine fois. Et en fait, bah, tu te retrouves à passer à travers champs, pour aller contourner la pointe, quoi, sur un balisage, enfin il n'y a pas de balisage, donc sur un chemin que tu te retrouves toi-même, quoi. Voilà. Comme si en fait le GR ne voulait pas me libérer, tu vois, sur le dernier mètre de la dernière falaise. Non, Olivier, je te retiens, tu passes pas, interdit, non. Pas de libération, tu vois.
Gandalf sur le pont, vous ne passerez pas.
Exactement, bah, c'était ça. Pire la galère. Et bon, après c'était, j'ai passé, et puis après la dernière étape, ça a été plutôt du plat, quoi. Voilà, effectivement. Donc ça, c'était une anecdote aussi où on voulait pas me libérer de mon aventure.
Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Et comment est-ce que cette expérience va influencer ta vie future?
Je pense que c'est plutôt comme un aboutissement, en fait, hein. C'est plutôt un aboutissement, et je pense pas que ça influence particulièrement. Je suis plutôt fier, hein, d'avoir effectué ce parcours, surtout en tant que Breton. C'est quand même symbolique, hein, le GR34. C'est une épreuve difficile. C'est une épreuve difficile, et c'est pas à prendre à la légère. C'est très contraignant. Voilà. Donc je suis plutôt fier. Et comme voilà, effectivement, comme ça fait longtemps que je participe sur des ultras, c'est plutôt un aboutissement, quoi. Je veux dire. De carrière, voilà, je pense que je peux pas faire mieux, si tu veux, en termes de distance, de difficultés, de contraintes quotidiennes, voilà, c'est plutôt un accomplissement d'une carrière d'ultra trailer depuis 18 ans. Voilà, donc je suis fier, et puis je suis fier aussi de transmettre à mes enfants, quoi, parce que bon, bah, maintenant mes enfants, où qu'ils aillent en Bretagne sur la côte, bah, ils pourront se dire, bah tiens, papa est passé par là, quoi. Voilà, il y a pas un mètre de la côte bretonne où je ne suis pas passé. Donc voilà, c'est voilà, où qu'ils aillent un jour ou l'autre, j'espère avoir aussi des petits enfants, voilà, et bah, le grand-père, le père, vous savez, votre arrière-grand-père, ben, il avait fait le tour du GR34, ben, tu vois, on est venu en vacances dans le Gorre du Morbihan, ben voilà, votre grand-père, il est passé par là, voilà, vous êtes au Cap Fréhel, ben voilà, votre papa est passé par là, etc. Donc voilà, c'est une fierté. C'est une fierté, et puis une fierté de connaître vraiment bien la Bretagne maintenant. Je parle de la Bretagne côtière, bien entendu, parce que la Bretagne du centre aussi est très belle, bien entendu. Mais la Bretagne côtière, ben, je la connais maintenant. Voilà, je la connais et bien sûr, tu me poseras la question, quels sont les plus beaux endroits, Olivier, que tu as... que tu as préféré. Je suis fier de connaître vraiment le sentier des douaniers. Je dirais, je le connais bien maintenant. Voilà, et j'en connais toutes ces difficultés. Et donc je pense que c'est un défi. Si un jour d'autres personnes se lancent dans ce défi, c'est dur, hein. C'est dur, vraiment c'est dur. Après, bon, j'ai pas le niveau des élites, bien entendu, mais même pour un élite, c'est difficile aussi. Voilà, donc je pense. Et donc, on n'a pas parlé, François. On n'a pas parlé, François, de, à mon avis, de la particularité de ce Sud-Nord.
Dis-moi, voilà. Pour moi, c'est surtout le dénivelé justement qui est minime au départ et qui est important à la fin. Et puis c'est aussi en fonction du sens des vents qui peut aussi apporter certaines particularités.
Tout à fait, tout à fait. Effectivement, il y a les vents bien entendu qui peuvent jouer surtout sur la côte nord, Finistère, Côte d'Armor. Hein. Si tu as le vent dans le dos, effectivement, vent d'ouest, c'est beaucoup plus facile. Mais effectivement, j'ai vaniteusement comparé cela à des alpinistes hein, qui font une voie montagnarde, la voie sud ou la voie nord, bah c'est pas pareil. Monter au sommet, bah c'est la même altitude, mais si un alpiniste ou un himalayiste choisit une voie différente, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Imagine ton grand raid du Finistère, si tu le fais dans l'autre sens. Si tu commences par Crozon, c'est pas pareil non plus. Voilà, effectivement, moi je pense que déjà le record nord-sud de Nicolas, il va être difficile à battre. Il va être difficile à battre, mais bon, ça va stimuler quelques élites et quelques bons coureurs.
Il y a Eric Lavry déjà hein, qui veut s'y coller et qui, à mon avis, va poser son style hein, sur le GR.
Je pense que le connaissant,
il va mettre tout le monde d'accord.
Il va mettre tout le monde d'accord, effectivement. Voilà.
Qu'est-ce que tu as fait à l'arrivée? Est-ce que moi, je sais pas, je terminerai un truc comme ça, je pense que je ferai une grosse fête avec tous ceux qui m'ont accompagné, mais il doit y avoir quand même derrière un petit sentiment de vide, de mort par pas. Qu'est-ce qui s'est passé à cette arrivée?
Oui, ça s'est passé comme ça, effectivement. Donc, arrivé au Mont-Saint-Michel, j'avais effectivement des membres de ma famille. Vous savez, maintenant, au Mont-Saint-Michel, on ne vient plus en voiture jusqu'au bout. On prend la navette, hein, on prend une navette pour aller jusqu'aux abords du Mont-Saint-Michel. Donc là, j'avais ma famille qui m'attendait. J'avais le drapeau breton pour terminer les derniers kilomètres de l'aventure. Donc là aussi, les Normands du Mont-Saint-Michel, ils ont ouvert grand les yeux. C'est quoi cet hurluberlu qui arrive avec son drapeau breton en courant voilà. Donc en fait, donc c'était super super sympa l'arrivée au Mont-Saint-Michel. Et en fait, le soir même, en fait, je suis rentré sur Nantes. Je suis rentré sur Nantes en voiture avec ma famille. Et parce que j'ai de la famille à Nantes, et donc en fait je devais reprendre l'avion 2 jours plus tard aussi de Nantes. Donc en fait on a fait la fête à Nantes en famille. Voilà. Donc le soir même, on a ouvert le champagne. Voilà.
Donc c'était cool. Bien mérité en tout cas ce champagne.
Donc c'était cool et voilà. Et puis je le redis effectivement cette arrivée au Mont-Saint-Michel. En plus, tu le vois de loin, en plus, hein, donc il te fait languir hein, quand tu arrives sur les polders du Mont-Saint-Michel, à 10-15 kilomètres, bah, tu vois déjà le Mont-Saint-Michel de loin, hein, mais il est pas encore là, quoi. Et puis t'es un peu fatigué, donc difficile de courir. En plus, le chemin, il est pas facile à courir parce que surtout quand t'es fatigué, bon, voilà, il y a quand même pas mal de mottes de terre, etc. Donc c'est pas facile à courir et mais tu le vois de loin et donc tu savoures, quoi. Tu savoures l'approche, etc. Et donc c'était cool, quoi, pour ça. Et donc voilà. Donc c'était un beau défi, une belle aventure, difficile, vraiment difficile. Beaucoup plus de temps à se remettre quand même. Hein. Quand tu fais un ultra, quand tu fais par exemple le Grand Raid du Finistère, hein, ben je pense qu'en 3-4 jours.
Tu feras l'année prochaine, j'imagine.
peut-être. Peut-être, bah oui, ça serait sympa. Hein. C'est vrai que maintenant je connais, bah je l'ai fait dans l'autre sens.
Pas fait le Ménésome.
J'ai pas fait le Ménésome, effectivement. oui, donc généralement quand on fait un ultra, bon, au bout de 3-4 jours, on récupère. Mais là, il te faut 3-4 semaines pour récupérer. Quoi. Là, c'est long, c'est difficile à récupérer, voilà. Donc, en plus, moi, j'ai mis 40 jours, donc j'ai pas mis que 25 jours. Donc, voilà. Donc, c'est un peu comme les ultra-trailers dont je fais partie, sans grade, qui sont plus habitués des barrières horaires délicates et ou des serre-files. Ben, quand tu fais des ultras. En deux fois plus de temps que les élites, ben, c'est vrai que tu passes deux fois plus de temps sur le parcours. Donc voilà, tu as sans doute deux fois plus de temps pour récupérer. Quoi. Donc effectivement, là, moi j'ai trouvé dur la récupération effectivement, de ce défi. Voilà, donc par contre, je le recommande aussi parce que c'est vraiment magnifique et ça se passe en France, les paysages sont magnifiques. Vraiment, c'est chaque jour on en prend plein les yeux. Même moi qui suis breton et que je connaissais quoi un bon tiers quand même déjà du parcours pour l'avoir déjà visité, bah j'étais quand même en émerveillement permanent, quoi. Et c'est vraiment fabuleux, quoi. J'ai fait des belles photos. Des souvenirs plein la tête, quoi. Donc en plus dans ce genre de défi, bon, tu te lèves parfois tôt, tu te couches tard, enfin tu finis tard, donc t'as des levées de soleil, t'as des couchers de soleil, donc c'était vraiment une pétillance des pupilles permanente. Ouais, c'était super. Et donc il nous faudrait une heure de plus pour citer tous les coins waouh que j'ai découverts.
Eh ben, je te propose de faire un épisode 2 parce que moi, je vais devoir te laisser parce que je suis de garde à 20h et là, il est
19h40. Voilà, je suis désolé.
Mais c'était passionnant, c'est fascinant et c'est pas déconnant. Hein. Tu vois, j'avais encore pas mal de choses à te poser comme question et je te propose qu'on fasse réellement un épisode 2 pour que tu nous parles de toutes ces choses que tu as encore envie de partager parce que je sens qu'il y en a encore pas mal des choses que tu as envie de partager. Mmh. Mmh. Et moi j'avais aussi des questions. Donc je reste un peu sur ma faim mais malheureusement le temps là m'est compté, ça m'arrive rarement mais tu vois écoute Olivier, on va pas clôturer comme d'habitude avec la question de fin, si tu avais quelque chose à ajouter pour clôturer notre échange, je te propose qu'on reste là-dessus, on fait comme si on faisait pause et ce sera notre partie 1 et on fera une partie 2 de notre échange. C'est la première fois que je fais ça sur le podcast, mais si tu es dispo et que tu en as envie, je te propose ça, qu'en dis-tu?
Avec plaisir, puisque effectivement tu as beaucoup de questions encore et moi j'ai encore beaucoup d'argumentation. Et si effectivement, bah, si on peut teaser pour nos auditeurs tout ce que vous avez voulu savoir sur le GR34 sans jamais l'avoir osé demander, ben attendez l'épisode 2 puisqu'il y a encore beaucoup de choses à dire et de belles choses à découvrir. Et je vais te laisser à tes occupations. Je te remercie beaucoup, François. Ça a été super sympa.
Et surtout, bah rendez-vous sur l'épisode 2 pour la suite, alors, voilà. Olivier.
Et surtout, n'hésitez pas à profiter des dernières heures pour vous inscrire au Grand Raid du Finistère. Parce qu'à 23h59, il sera trop tard.
Ah ouais, mais quand l'épisode sera publié, ce sera déjà fini.
Exactement. Bon, c'était un peu inopportun de ce que
mais pour l'année prochaine. Ou venez en bénévole, ça, ce sera toujours bon. bon, allez, rendez-vous sur la partie 2, Olivier, et puis, chers auditeurs, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, et puis, je suis sûr que la partie 2 sera tout aussi passionnante, donc n'hésitez pas à enchaîner. Surtout si vous écoutez cet épisode avec un petit peu de retard, j'aime bien parler de mes auditeurs de 2030, parce qu'ils seront toujours là, donc la partie 2 sera déjà publiée, donc n'hésitez pas à l'écouter. Merci Olivier pour cette partie 1, en tout cas, et rendez-vous sur la partie 2 très 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 vite.
Merci François, Kenavo.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PLANETRAIL, PLANETETRAIL. Tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très bon footing, très bon trajet. Bref, ce que tu es en train de faire, je te le souhaite un très bon. Allez, à bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.